Frédéric Nietzsche, Humain trop humain, Le voyageur et son ombre. 161. Robert Schumann. Le jeune homme, tel que le rêvaient les poètes lyriques du romantisme français et allemand dans le premier tiers de ce siècle, ce jeune homme a été complètement traduit en chant et en musique par Robert Schumann, l'éternel jeune homme, tant qu'il se sentit dans la plénitude de sa force. Il est vrai qu'il y a des moments où sa musique fait songer à l'éternelle vieille fille. 162. Les chanteurs dramatiques. Pourquoi ce mendiant chante-t-il ? Il ne s'entend probablement pas à gémir. Alors il fait bien. Mais nos chanteurs dramatiques qui gémissent parce qu'ils ne savent pas chanter, font-ils bien, eux aussi ? 163. Musique dramatique. Pour celui qui ne voit pas ce qui se passe sur la scène, la musique dramatique est une absurdité. De même que le commentaire perpétuel d'un texte perdu est une absurdité. Cette musique demande très sérieusement que l'on ait les oreilles là où se trouvent les yeux. Mais c'est là faire violence à Euterpe. Cette pauvre muse veut qu'on laisse ses yeux et ses oreilles aux endroits où toutes les autres muses les ont aussi. 164. Victoire et raison. Malheureusement, dans les guerres esthétiques que les artistes provoquent avec leurs œuvres et la défense de celles-ci, c'est aussi la force qui décide en dernière instance et non point la raison. Maintenant, tout le monde admet comme fait historique que le bonheur dans la lutte a eu raison avec Piccinni. En tous les cas, Piccinni a été victorieux. La force se trouvait de son côté. 165. Du principe de l'exécution musicale. Les exécutants d'aujourd'hui croient-ils donc vraiment que c'est le commandement suprême de leur art de donner à chaque morceau autant de haut relief que possible et de lui faire parler à tout prix un langage dramatique. Appliqué, par exemple, à Mozart, n'est-ce pas là un véritable péché contre l'esprit, l'esprit serein, ensoleillé, tendre et léger de Mozart, dont le sérieux est un sérieux bienveillant et non point un sérieux terrible dont les images ne veulent pas sauter hors de leur cadre pour épouvanter et mettre en fuite celui qui les contemple. Ou bien vous imaginez-vous que la musique de Mozart s'identifie à la musique du festin de Pierre, et non seulement la musique de Mozart, mais toute espèce de musique. Mais vous répondez que le plus grand effet parle en faveur de votre principe, et vous auriez raison si l'on ne vous répliquait pas par une autre question. Sur qui a-t-on voulu faire de l'effet et sur qui un artiste noble a-t-il seulement le droit de vouloir faire de l'effet? Jamais sur le peuple, jamais sur les êtres qui n'ont pas atteint leur maturité, jamais sur les êtres sensibles, jamais sur les êtres maladifs, mais avant tout, jamais sur les êtres émoussés. 166. Musique d'aujourd'hui. Cette musique archi-moderne, avec ses poumons vigoureux et ses nerfs délicats, s'effraie toujours d'abord devant elle-même. 167. Où la musique est à l'aise. La musique n'atteint sa grande puissance que parmi les hommes qui ne peuvent ni ne doivent discuter. C'est pourquoi ses premiers promoteurs sont les princes qui ne veulent pas que, dans leur entourage, l'on critique beaucoup ni même que l'on pense beaucoup. Et ensuite, les sociétés qui, sous une pression quelconque, princière ou religieuse, sont forcées de s'habituer au silence, mais qui sont à la recherche de sortilèges d'autant plus violents contre l'ennui du sentiment, généralement l'éternel penchant amoureux et l'éternelle musique. En troisième lieu, des peuples tout entiers où il n'y a point de société, mais d'autant plus d'individus avec un penchant à la solitude, à des pensées crépusculaires et à la vénération de tout ce qui est inexprimable. Ce sont les véritables âmes musicales. Les Grecs, étant un peuple qui aime la parole et la lutte, ne supportaient la musique que comme un accessoire des arts sur quoi l'on put discuter et parler véritablement. Tandis que sur la musique, il est à peine possible de penser nettement. Les pythagoriciens, ces Grecs exceptionnels en bien des matières, étaient aussi, ainsi qu'on le prétend, de grands musiciens. Ce sont les mêmes qui ont inventé le silence de 5 ans, mais n'ont point la dialectique. 168. Sentimentalité dans la musique. Quel que soit le penchant que l'on ait pour la musique sérieuse et grande, à certaines heures, on sera toujours subjugué, charmé et attendri par l'opposé de celle-ci. Je veux parler de ces mélismes d'opéra italien, les plus simples de tous, qui, malgré leur uniformité rythmique et l'enfantillage de leurs harmonies, nous émeuvent parfois comme si nous entendions chanter l'âme même de la musique. Que vous en conveniez ou non, pharisiens du bon goût, il en est ainsi. Et pour moi, il importe maintenant, avant tout, de donner à deviner cette énigme et d'aider moi-même un peu à la résoudre. Lorsque nous étions encore enfants, nous avons goûté pour la première fois le miel de bien des choses. Jamais plus, dans la suite, il ne nous parut aussi bon qu'alors. Il induisait à la vie la plus longue, sous la forme du premier printemps, des premières fleurs, des premiers papillons, de la première amitié. Alors, ce fut peut-être vers la 9e année de notre vie, nous entendîmes la première musique, et ce fut celle que nous comprîmes d'abord. Par conséquent, la plus simple et la plus enfantine, celle qui ne fut guère plus que le développement d'une chanson de nourrice ou d'un air de musicien ambulant. Car il faut que l'on soit préparé et exercé pour les moindres révélations de l'art. Il n'existe nullement d'effet immédiat de l'art, quelles que soient les belles inventions que les philosophes aient à ce sujet. C'est à ces premiers ravissements musicaux, les plus violents de notre vie, que se rattache notre sentiment lorsque nous entendons ces mélismes italiens. La béatitude d'enfant et la fuite du jeune âge, le sentiment de l'irréparable comme notre bien le plus précieux, tout cela touche les cordes de notre âme d'une façon plus violente que la présence la plus abondante et la plus sérieuse de l'art ne saurait le faire. Ce mélange de joie esthétique avec un chagrin moral que l'on a maintenant l'habitude d'appeler communément sentimentalité, un peu trop orgueilleusement comme il me semble, c'est l'état d'âme de Faust à la fin de la première scène. Cette sentimentalité des auditeurs profite à la musique italienne que généralement les gourmets expérimentés de l'art, les esthéticiens purs, aiment à ignorer. D'ailleurs, toute musique ne commence à avoir un effet magique qu'à partir du moment où nous entendons parler en elle le langage de notre propre passé. Et en ce sens, pour le profane, toute musique ancienne semble devenir toujours meilleure, et toute musique récente n'avoir que peu de valeur, car elle n'éveille pas encore de sentimentalité. Cette sentimentalité qui, comme je l'ai indiqué, est le principal élément de bonheur dans la musique, pour tout homme qui ne prend pas plaisir à cet art purement en artiste. 169. En ami de la musique. En fin de compte, nous continuons à aimer la musique comme nous aimons le clair de lune. Tous deux ne veulent pas remplacer le soleil, mais seulement illuminer nos nuits, tant bien que mal. Mais, n'est-ce pas, nous avons quand même le droit d'en rire et de plaisanter à leur sujet. Un peu du moins, et de temps en temps. Sur l'homme dans la lune, sur la femme dans la musique. 170. L'art dans le temps réservé au travail. Nous possédons la conscience d'une époque laborieuse. Cela ne nous permet pas de réserver à l'art les meilleures heures et les meilleurs matins, quand même cet art serait le plus grand et le plus digne. Il est, à nos yeux, affaire de loisir, de récréation. Nous lui vouons les restes de notre temps, de nos forces. C'est là le fait principal qui a changé la situation de l'art vis-à-vis de la vie. Lorsque l'art fait appel au réceptif par de grandes exigences de temps et de force, il a contre lui la conscience des laborieux et des hommes capables. Il en est réduit aux gens indolents et sans conscience, qui, de par leur nature, ne sont précisément pas portés vers le grand art et qui considèrent les prétentions du grand art comme de l'insolence. Il se pourrait donc très bien que s'en fût fait du grand art parce qu'il manque d'air et de libre respiration. Ou bien encore, faudrait-il qu'il essaie de s'acclimater dans une autre atmosphère, ou du moins de pouvoir y vivre. Dans une atmosphère qui n'est en somme que l'élément naturel du petit art, de l'art du repos, de la distraction amusante. Il en est ainsi presque partout maintenant. Les artistes du grand art, eux aussi, promettent une récréation et une distraction. Eux aussi s'adressent à l'homme fatigué et lui demandent les heures du soir de ses journées de travail, tout comme les artistes qui veulent récréer et qui sont satisfaits d'avoir remporté une victoire sur le front chargé de plis sévères et sur les yeux caves. Quels sont donc les artifices de leurs plus grands confrères? Ceux-ci ont dans leurs armes les excitants les plus puissants, qui parviendraient même à effrayer l'homme mort à moitié. Ils possèdent des stupéfiants, des moyens de griser, d'ébranler, de provoquer des crises de larmes. Par tous ces moyens, ils subjuguent l'homme fatigué et l'amènent dans un état de fébrilité nocturne, de débordement, de ravissement et de crainte. Aurait-on le droit d'en vouloir au grand art tel qu'il existe aujourd'hui sous forme d'opéra, de tragédie et de musique, à cause des moyens dangereux qu'il emploie, comme on en voudrait à un pêcheur astucieux? Certainement non, car il préférerait 100 fois vivre dans le pur élément du silence matinal et s'adresser aux âmes pleines de vie, de force et d'attente, aux âmes du matin chez les spectateurs et les auditeurs. Remercions-le de préférer vivre ainsi que de s'enfuir. Mais avouons-nous aussi que pour une époque qui apportera dans la vie des jours de fête et de joie libres et pleins, notre grand art sera inutilisable. 171. Les employés de la science et les autres. On pourrait appeler employés les savants véritablement capables et couronnés de succès. Lorsque, dans les jeunes années, leur sagacité est suffisamment exercée, leur mémoire remplie, lorsque la main et l'œil ont pris de la sûreté, un savant plus âgé qu'eux leur assigne dans la science une place où leurs capacités peuvent être utiles. Plus tard, lorsqu'ils ont eux-mêmes acquis le regard qui leur fait voir les points faibles et les lacunes de leur science, ils se placent d'eux-mêmes aux endroits où l'on a besoin d'eux. Mais il y a d'autres natures plus rares, rarement couronnées de succès et qui rarement mûrissent complètement. Ce sont les hommes à cause desquels la science existe. Il leur semble, du moins à eux-mêmes, qu'il en est ainsi. Des hommes souvent désagréables, souvent présomptueux, souvent entêtés, mais presque toujours quelque peu enchanteurs. Ce ne sont ni des employés ni des employeurs. Ils se servent de ce que les autres ont réalisé et fixé par leur travail avec une certaine résignation princière et des éloges médiocres et rares, comme si ceux-ci appartenaient en quelque sorte à une espèce d'êtres inférieurs. Et pourtant, ils ne possèdent pas de qualités différentes de celles par lesquelles se distinguent les autres, et il leur arrive même de développer celles-ci à un degré moindre. De plus, ils ont en particulier une étroitesse d'esprit qui manque à ceux-ci, et à cause de quoi il n'est pas possible de les mettre à un poste et de voir en eux d'utiles instruments. Ils ne peuvent vivre que dans leur propre atmosphère, sur leur propre terrain. Cette étroitesse d'esprit leur permet de reconnaître ce qui, dans une science, leur appartient, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent faire rentrer dans leur atmosphère et dans leur demeure. Ils ont toujours l'illusion de rassembler leurs propriétés éparses. Si on les empêche de construire leur propre nid, ils périssent comme des oiseaux sans abri. Le manque de liberté les jette dans la consomption. S'ils utilisent certaines entrées de la science à la façon des autres, ce seront toujours seulement celles où prospèrent les graines et les fruits qui leur sont nécessaires. Que leur importe si la science, dans son ensemble, possède des contrées incultes ou mal cultivées. Ils ne prennent aucune part impersonnelle à un problème de la connaissance. De même qu'ils sont pénétrés de leur personnalité, toutes leurs expériences et tout leur savoir se confondent de nouveau en une seule individualité dont les différentes parties dépendent l'une de l'autre, empiètent l'une sur l'autre et sont nourries en commun. Une individualité qui, dans son ensemble, possède une atmosphère à elle et une odeur qui lui est propre. De pareilles natures produisent, au moyen de ces systèmes de connaissances personnelles, cette illusion qui consiste à croire qu'une science, ou même la philosophie tout entière, a atteint ses limites et se trouve à son but. La vie qu'il y a dans leur système exerce ce charme, et ce charme a été, à certaines époques, très néfaste pour la science, et trompeur pour ces travailleurs de l'esprit vraiment capables, mais à d'autres époques, où régnait la sécheresse et l'épuisement, semblable à un baume et pareil au souffle rafraîchissant qui vient d'un calme lieu de repos. Généralement, on appelle de pareils hommes des philosophes. 172. Reconnaissance du talent. Lorsque je traversais le village de S, un jeune gamin se mit à claquer du fouet de toutes ses forces. Il avait passé maître dans cet art et il le savait. Je lui jetais un regard de reconnaissance, mais au fond, il me faisait horriblement mal. Nous agissons souvent ainsi dans l'admiration que nous avons pour beaucoup de talents. Nous leur faisons du bien alors qu'ils nous font du mal. 173. Rire et sourire. Plus l'esprit devient joyeux et sûr de lui-même, plus l'homme désapprend le rire bruyant. Par contre, il est pris sans cesse d'un sourire plus intellectuel, signe de son étonnement à cause des innombrables ressemblances cachées qu'il y a dans la bonne existence. 174. Entretien des malades. De même que lorsque l'on a l'âme en détresse, on s'arrache les cheveux, on se frappe le front, on se déchire les joues, ou encore que, comme Oedipe, on se crève les yeux, de même, contre de violentes douleurs physiques, on appelle en aide un sentiment de vive amertume, en se souvenant, par exemple, de ses calomniateurs et de ceux qui vous mettent en état de suspicion, en obscurcissant notre avenir, en lançant mentalement des méchancetés et des coups de poignard contre les absents. Et il est parfois vrai qu'un diable en chasse un autre, mais c'en est alors un autre que l'on a en soi. Voilà pourquoi il faut recommander aux malades cet autre divertissement qui semble contribuer à adoucir les douleurs. Réfléchir aux bienfaits et aux gentillesses que l'on peut faire aux amis et aux ennemis. 175. La médiocrité comme masque. La médiocrité est le plus heureux des masques que l'esprit supérieur puisse porter. Parce que le grand nombre, c'est-à-dire le médiocre, ne songe pas qu'il y a là un travestissement. Et pourtant, c'est à cause de lui que l'esprit supérieur s'en sert, pour ne point irriter, et dans des cas qui ne sont pas rares, par compassion et par bonté. 176. Les patients. Le pin semble écouter, le sapin semble attendre, et tous deux écoutent sans impatience. Ils ne pensent pas à ce petit homme qui, à leurs pieds, est dévoré par son impatience et sa curiosité. 177. Les meilleures plaisanteries. Je fais le meilleur accueil à la plaisanterie qui se glisse en place d'une pensée lourde et hésitante, en même temps comme signe de la main et comme clignement de l'œil. 178. Accessoire de toute vénération. Partout où l'on vénère le passé, il ne faut pas laisser entrer les méticuleux qui veulent faire place nette. La piété ne se sent pas à l'aise sans un peu de poussière, d'ordure et de boue. 179. Le grand danger des savants. Ce sont justement les savants les plus distingués et les plus sérieux qui courent le danger de voir le but de leur vie placé toujours plus bas, car ils ont le sentiment que, dans la seconde partie de leur existence, ils deviendront de plus en plus chagrins et querelleurs. Ils commencent par se jeter dans leur science avec de vastes espoirs, et ils s'attribuent des tâches audacieuses dont leur imagination anticipe parfois déjà le but. Il y a alors des moments semblables à ceux que l'on trouve dans la vie des grands navigateurs qui vont à la découverte. Le savoir, le pressentiment et la force s'élèvent mutuellement toujours plus haut, jusqu'à ce qu'une côte lointaine et nouvelle apparaisse pour la première fois devant les regards. Mais l'homme sévère s'aperçoit d'année en année davantage combien il importe que la tâche particulière du chercheur soit prise dans des limites aussi restreintes que possible, pour que l'on puisse la résoudre sans reste et éviter cet insupportable gaspillage de force dont souffraient les périodes antérieures de la science. Tous les travaux étaient alors faits 10 fois, et c'était toujours le 11e qui avait à dire le dernier mot, le meilleur. Cependant, plus le savant apprend à connaître cette façon de résoudre les problèmes sans reliquat, plus il l'exerce, plus sera grand aussi le plaisir qu'il y prendra. Mais la sévérité de ses prétentions, par rapport à ce qui est ici appelé sans reliquat, grandira encore. Il met à part tout ce qui, dans ce sens, doit demeurer incomplet. Il a le flair et la répugnance de tout ce qui n'est soluble qu'à moitié. Il déteste tout ce qui ne peut donner une espèce de certitude que pris dans sa généralité, avec des contours vagues. Ses plans de jeunesse s'effondrent devant ses yeux, à peine s'il en reste quelques nœuds à défaire. Et c'est à ce travail que le maître s'applique maintenant avec joie et affirme sa force. Alors, au milieu de cette activité si utile et si infatigable, lui, l'homme vieilli, est parfois saisi d'un profond découragement et d'un sentiment qui finit par revenir plus souvent et qui ressemble à une espèce de torture de conscience. Son regard s'abaisse sur lui-même, comme s'il voyait quelqu'un de transformé, quelqu'un qui s'est rapetissé et abaissé jusqu'à devenir un nain agile. Il s'inquiète de savoir si la maîtrise dans les petites choses n'est pas une sorte de commodité, un faux fuyant devant les voies secrètes qui conseillent de donner de l'ampleur à la vie. Mais il ne peut plus passer de l'autre côté. Il est trop tard pour cela. 180. Les maîtres à l'époque des livres. L'éducation particulière et l'éducation par petits groupes, se généralisant de plus en plus, on peut presque se passer de l'éducateur tel qu'il existe maintenant. Des amis avides de savoir, qui veulent ensemble s'approprier une connaissance, trouvent à l'époque des livres une voie plus simple et plus naturelle que l'école et le maître. 181. La vanité considérée comme la chose la plus utile. Primitivement, l'individu fort traite non seulement la nature, mais encore la société et les individus faibles comme des objets de proie. Il les exploite tant qu'il peut, puis il continue son chemin. Parce qu'il vit dans l'incertitude, alternant entre la faim et l'abondance, il tue plus de bêtes qu'il ne peut en consommer, pille et maltraite plus d'hommes qu'il ne serait nécessaire. Sa manifestation de puissance est en même temps une expression de vengeance contre son état de misère et de crainte. Il veut, en outre, passer pour plus puissant qu'il n'est. Voilà pourquoi il abuse des occasions. Le surcroît de crainte qu'il engendre est pour lui un surcroît de puissance. Il remarque à temps que ce n'est pas ce qu'il est, mais ce pourquoi il passe, qui le soutient ou l'abat. Voilà l'origine de la vanité. Le puissant cherche par tous les moyens possibles à augmenter la foi en sa puissance. Ceux qui lui sont assujettis, qui tremblent devant lui et le servent, savent d'autre part qu'ils ne valent exactement que ce pourquoi ils sont réputés. C'est pourquoi ils travaillent en vue de cette réputation et non point en vue de leur satisfaction personnelle. Nous ne connaissons la vanité que sous ses formes les plus affaiblies, lorsqu'elle ne se montre plus que sublimée et à petite dose, parce que nous vivons à une époque tardive et très adoucie de la société. Primitivement, elle était la chose la plus utile, le moyen de conservation le plus violent. Or, la vanité sera d'autant plus grande que l'individu sera plus avisé. Parce qu'il est plus facile d'augmenter la croyance en la puissance que d'augmenter la puissance elle-même. mais c'est seulement le cas pour celui qui a de l'esprit, ou bien, comme il faut dire pour les états primitifs, pour celui qui est rusé et dissimulé. 182. Pronostic de la culture. Il y a si peu d'indices décisifs de la culture qu'il faut être heureux d'en posséder du moins un qui soit infaillible pour s'en servir dans sa maison et son jardin. Pour examiner si quelqu'un est des nôtres ou non, je veux dire s'il fait partie des esprits libres, il faut s'informer de ses sentiments vis-à-vis du christianisme. S'il prend un autre point de vue que le point de vue critique, il faut lui tourner le dos. Il nous apportera un air impur et du mauvais temps. Ce n'est plus notre tâche d'enseigner à de tels hommes ce que c'est qu'un vent de sirocco. Ils ont Moïse et les prophètes du temps et de la raison. S'ils ne veulent pas les écouter, eh bien... 183. La colère et la punition viennent à leur temps. La colère et la punition nous ont été léguées par l'espèce animale. L'homme ne s'émancipe qu'en rendant aux animaux ce cadeau de baptême. Il y a là, caché, une des plus grandes idées que les hommes puissent avoir, l'idée d'un progrès unique parmi tous les progrès. Avançons ensemble de quelques milliers d'années, mes amis. Beaucoup de joies sont encore réservées aux hommes, des joies dont l'odeur n'est pas encore venue jusqu'à ceux du présent. Or, nous avons le droit de nous permettre cette joie, de l'invoquer et de l'annoncer comme quelque chose de nécessaire, pourvu que le développement de la raison humaine ne s'arrête point. Un jour viendra où l'on ne voudra plus assumer le péché logique qui se cache dans la colère et la punition, pratiquée individuellement ou en société. Ce sera le jour où la tête et le cœur sauront être aussi près l'un de l'autre qu'ils sont éloignés maintenant. En jetant un regard sur la marche générale de l'humanité, on s'aperçoit assez bien qu'ils sont moins loin l'un de l'autre qu'ils l'étaient primitivement. Et l'individu qui peut embrasser d'un coup d'œil toute une existence de travail intérieur prendra conscience avec une joie orgueilleuse de la distance surmontée, du rapprochement qui a eu lieu et osera hasarder des espoirs plus hauts encore. 184. Origine des pessimistes. Une bouchée de bonne nourriture décide souvent si nous regardons l'avenir avec des yeux découragés ou pleins d'espoir. Cela est vrai dans les choses les plus hautes et les plus intellectuelles. Le mécontentement et les idées noires ont été transmis aux générations actuelles par les faméliques de jadis. Même chez nos artistes et nos poètes, on remarque souvent, malgré l'opulence de leur vie, qu'ils ne sont pas d'une bonne origine, que leur sang et leur cerveau charrient des débris du passé, des souvenirs d'ancêtres mal nourris et opprimés leur vie durant, ce qui est visible dans leurs œuvres, dans l'objet et la couleur qu'ils ont choisie. La civilisation des Grecs est une civilisation de gens qui possèdent, dont la fortune est d'origine ancienne. Ils vécurent mieux que nous à travers plusieurs générations, mieux de toute manière et avant tout, beaucoup plus simplement au point de vue de la nourriture et de la boisson. C'est alors que le cerveau devint à la fois si plein et si subtil, alors que le sang se mit à circuler rapidement, semblable à un joyeux vin clair. Ils produisirent donc ce qu'il y a de bien et de meilleur, non plus avec des couleurs sombres, pleines d'extase et de violence, mais avec des rayonnements de beauté et de soleil. 185. La mort raisonnable. Qu'est-ce qui est plus raisonnable? Arrêter la machine lorsque l'œuvre qu'on lui demandait est exécutée, ou bien la laisser marcher jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'elle-même, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit abîmée. Ce dernier procédé n'est-il pas un gaspillage des frais d'entretien, un abus des forces et de l'attention de ceux qui desservent la machine? Ne répand-on pas inutilement ce qui ailleurs serait très nécessaire? N'est-ce pas propager une espèce de mépris à l'égard des machines en général que d'en entretenir et d'en desservir un si grand nombre inutilement? Je veux parler de la mort involontaire, naturelle, et de la mort volontaire, raisonnable. La mort naturelle est la mort indépendante de toute volonté, la mort proprement déraisonnable, où la misérable substance de l'écorce détermine la durée du noyau, où par conséquent le geôlier étiolé, malade et hébété, est maître de déterminer le moment où doit mourir son noble prisonnier. La mort naturelle est le suicide de la nature, c'est-à-dire la destruction de l'être le plus raisonnable par la chose la plus déraisonnable qui y soit attachée. Ce n'est que si l'on se met au point de vue religieux qu'il peut en être autrement. Parce qu'alors, comme de juste, la raison supérieure, Dieu, donne ses ordres. À quoi la raison inférieure doit se soumettre? Abstraction faite de la religion. La mort naturelle ne vaut pas une glorification. La sage disposition à l'égard de la mort appartient à la morale de l'avenir, qui paraît insaisissable et immorale maintenant, mais dont ce doit être un bonheur indescriptible d'apercevoir l'aurore. 186. Regardant en arrière. Tous les criminels forcent la société à revenir à des degrés de civilisation antérieurs à celui où elle se trouve au moment où le crime s'accomplit. Ils agissent en arrière. Que l'on songe aux instruments que la société est obligée de se créer et d'entretenir pour sa défense. Aux policiers madrés, aux geôliers, aux bourreaux. Que l'on se demande enfin si le juge lui-même et la punition et toute la procédure judiciaire dans leurs effets sur le non-criminel, ne sont pas plutôt faits pour déprimer que pour élever. C'est qu'il ne sera jamais possible de prêter à la légitime défense et à la vengeance le vêtement de l'innocence. Et chaque fois que l'on utilise et sacrifie l'homme comme un moyen pour accomplir le but de la société, toute l'humanité supérieure en est attristée. 187. La guerre comme remède. Aux peuples qui deviennent faibles et misérables, on pourrait conseiller la guerre comme remède, à condition, bien entendu, qu'ils veuillent à toute force continuer à vivre. Car, pour la consomption des peuples, il y a aussi une cure de brutalité. Mais vouloir vivre éternellement et ne pas pouvoir mourir, c'est déjà un symptôme de sénilité dans le sentiment. Plus on vit avec ampleur et supériorité, plus vite on est prêt à risquer sa vie pour un seul sentiment agréable. Un peuple qui vit et sent ainsi n'a pas besoin de guerre. 188. Transplantation intellectuelle et corporelle comme remède. Les différentes cultures sont des climats intellectuels dont chacun est particulièrement nuisible ou salutaire à tel ou tel organe. L'histoire, dans son ensemble, étant la science des différentes cultures, est la science des remèdes, mais non point la thérapeutique elle-même. C'est pourquoi il faut un médecin qui utilise la science des remèdes pour envoyer chacun dans le climat qui lui est particulièrement salutaire, pour un temps seulement ou bien pour toujours. Vivre dans le présent, au milieu d'une seule culture, ne suffit pas comme prescription universelle. Trop d'espèces d'hommes infiniment utiles qui ne peuvent pas respirer dans de bonnes conditions y périraient. À l'aide des études historiques, il faut leur donner de l'air et chercher à les conserver. Les hommes des civilisations demeurées en arrière ont eux aussi leur valeur. À côté de cette cure de l'esprit, il faut que l'humanité aspire, pour ce qui est des choses corporelles, à savoir, par une géographie médicale, quelles sont les dégénérescences et les maladies que provoque chaque contrée de la Terre, et au contraire, quels sont les facteurs de guérison qu'elle présente. Il faut alors que les peuples, les familles et les individus soient transplantés sans cesse et jusqu'à ce qu'on se soit rendu maître des infirmités héréditaires. La Terre tout entière finira par être un ensemble de stations sanitaires. 189. L'arbre de l'humanité et la raison. Ce qu'avec une sénile myopie vous craignez, comme un surcroît de population sur la terre, met entre les mains de ceux qui ont plus d'espoir que nous une tâche grandiose. Il faut que l'humanité soit un jour un arbre qui ombragera la terre tout entière, avec plusieurs milliards de fleurs qui toutes deviendront des fruits. C'est pourquoi il faut dès maintenant préparer la terre à nourrir cet arbre. Augmenter la sève et la force qui hâtera le développement maintenant encore minime, faire circuler en d'innombrables canaux cette sève nécessaire à la nutrition de l'ensemble et du particulier. De telles tâches ou de tâches semblables, on peut déduire la mesure pour apprécier si un homme d'aujourd'hui est utile ou inutile. La tâche est sans limite, grandiose et téméraire. Nous voulons tous y participer afin que l'arbre ne pourrisse pas avant le temps. L'esprit historique réussira peut-être à se figurer en imagination l'être humain et l'activité humaine semblable, dans l'ensemble du temps, à l'organisation des fourmis, à une fourmilière ingénieusement édifiée. À la juger superficiellement, toute l'humanité nous apparaît régie par l'instinct, comme l'organisation des fourmis. Mais après un examen sévère, nous remarquons que des peuples tout entiers se sont efforcés pendant des siècles à découvrir et à mettre à l'épreuve des moyens nouveaux par quoi l'on peut faire du bien à la grande collectivité humaine et enfin au grand arbre fruitier de l'humanité. Et, quel que soit le dommage causé pendant ces essais aux individus, aux peuples et aux époques, il y aura toujours des individus qui y auront gagné de la sagesse. Et cette sagesse se répandra lentement sur les mesures que prendront des époques et des peuples tout entiers. Les fourmis, elles aussi, errent et se trompent. L'humanité peut fort bien périr et dessécher avant le temps par la folie des moyens. Il n'y a ni pour l'une ni pour les autres un sur-instinct conducteur. Il nous faut bien au contraire envisager face à face cette tâche grandiose, qui consiste à préparer la terre pour recevoir une plante de la plus grande et de la plus joyeuse fécondité. Et c'est une tâche de la raison pour la raison. 190. L'éloge du désintéressement et son origine. Entre deux chefs de bande voisins, l'on était depuis longtemps en querelle. On ravageait les récoltes, on enlevait les troupeaux, on incendiait les maisons, avec en somme des succès douteux, puisque les deux puissances étaient à peu près égales. Un troisième, qui, par la situation isolée de ses domaines, pouvait se tenir loin de ces disputes, mais qui cependant avait des raisons pour craindre le jour où un de ses voisins querelleurs arriverait à une définitive prépondérance, s'entremit finalement avec bienveillance et solennité entre les deux parties en lutte. Et secrètement, il ajoutait à ses propositions de paix un poids sérieux en donnant à entendre à chacun des deux belligérants que, dorénavant, il ferait cause commune avec la victime de quiconque romprait la paix. On s'assembla devant lui. On mit avec hésitation dans sa main les mains qui, jusqu'à présent, avaient été les instruments et trop souvent les causes de la haine. Il en fit vraiment de sérieuses tentatives pour maintenir la paix. Chacun vit avec étonnement combien son bien-être et son aisance grandissaient soudain, et que l'on trouvait chez le voisin, au lieu d'un malfaiteur perfide ou arrogant, un marchand prêt à l'achat et à la vente. Il vit même que dans des cas de nécessité imprévue, on pouvait réciproquement se tirer de la détresse, au lieu d'exploiter, comme cela s'était fait jusqu'à présent, cette détresse du voisin et de la pousser à son comble si cela était possible. Il sembla même que l'espèce humaine fût, depuis lors, devenue plus belle dans les deux régions, car les yeux s'étaient éclairés, les fronts s'étaient débarrassés des rides, et tous avaient pris confiance en l'avenir. Rien n'est plus salutaire aux âmes et aux corps, chez les hommes, que cette confiance. On se revoyait tous les ans au jour de l'alliance, tant chef que partisan, et cela en présence du médiateur, dont on admirait et vénérait la façon d'agir, plus était grand le profit qu'on lui devait. On appelait désintéressé cette façon d'agir, car l'on envisageait de trop près l'avantage personnel que l'on avait tiré de l'intervention pour voir dans la façon d'agir du voisin autre chose que ce fait. Les conditions d'existence de celui-ci ne s'étaient pas transformées de la même façon que celles des belligérants réconciliés par lui. Elles étaient au contraire demeurées les mêmes. Il semblait, par conséquent, qu'il n'avait pas eu son intérêt en vue. Pour la première fois, on se disait que le désintéressement était une vertu. Certainement, dans les petites choses privées, il s'était souvent rencontré là des cas semblables. Mais on ne porta son attention sur cette vertu que lorsque, pour la première fois, elle devenait évidente comme si elle était écrite au mur en gros caractères, lisible pour toute la communauté. Reconnues comme des vertus, affublées d'un nom, mises en formule, recommandées pour l'usage, telles furent seulement les qualités morales à partir du moment où elles décidèrent visiblement des destinées et du bonheur de société tout entière. Depuis lors, chez beaucoup de gens, l'élévation des sentiments et la stimulation des forces créatrices intérieures sont devenues si grandes que l'on offre des présents à ces qualités morales, chacun apportant ce qu'il a de meilleur. L'homme sérieux met à leurs pieds son sérieux, l'homme digne sa dignité, les femmes leur douceur, les jeunes gens tout ce qui est en eux riche d'espoir et d'avenir. Le poète leur prête des paroles et des noms, les introduit dans la ronde des êtres analogues, leur attribue un tableau généalogique et finit par adorer, comme font les artistes, des créatures de son imagination comme des divinités nouvelles. Il enseigne même à les adorer. C'est ainsi qu'une vertu, parce que l'amour et la reconnaissance de tous y travaillent comme à une statue, finit par devenir une agglomération de tout ce qui est bon et digne de vénération, tout à la fois une espèce de temple et de personnalité divine. Elle se dresse désormais comme une vertu spéciale, comme un être à part, ce qu'elle n'était pas jusqu'à présent, et elle exerce les droits et la puissance dont dispose une surhumanité sanctifiée. Dans la Grèce de la décadence, les villes étaient pleines de ces abstractions divines humanisées, que l'on pardonne le mot singulier à cause de l'idée singulière. Le peuple s'était arrangé à sa manière une espèce de ciel des idées à la façon platonicienne, et je ne crois pas que l'on ait eu l'impression de cet habitant céleste moins vivement que celle d'une quelconque divinité passée de mode. 191. Temps d'obscurité. On appelle en Norvège temps d'obscurité les époques où le soleil demeure toute la journée au-dessous de l'horizon. Pendant ce temps, la température s'abaisse sans cesse lentement. Quel merveilleux symbole pour tous les penseurs devant lesquels le soleil de l'avenir humain s'est obscurci pour un temps. 192. Le philosophe de l'opulence. Un petit jardin, des figues, du fromage, et avec cela, trois ou quatre bons amis. Ce fut là l'opulence d'Épicure. 193. Les époques de la vie. Les véritables époques de la vie sont ces moments d'arrêt entre la montée et la descente d'une idée dominante ou d'un sentiment directeur. On éprouve de nouveau la satiété, tout le reste est soif et faim ou dégoût. 194. Le rêve. Nos rêves sont, pour le cas où, par exception, ils se poursuivent une fois et s'achèvent, généralement le rêve est un bousillage, des enchaînements symboliques de scènes et d'images, en lieu et place du récit en langue littéraire. Il modifie les événements, les conditions et les espoirs de notre vie, avec une audace et une prévision poétique qui nous étonnent toujours, le matin, lorsque nous nous en souvenons. Nous gaspillons trop notre sens artistique durant notre sommeil, et c'est pourquoi le jour, nous en sommes souvent si pauvres. 195. Nature et science. De même que dans la nature, dans la science, ce sont aussi les terrains les plus mauvais et les plus inféconds qui sont défrichés les premiers, parce que les moyens que possède la science commençante suffisent à peu près à cela. L'exploitation des domaines les plus féconds a pour condition une force énorme et soigneusement développée dans les méthodes, des résultats particuliers déjà acquis et une équipe d'ouvriers organisée et bien dressée. Et l'on ne trouve tout cela réuni que très tard. L'impatience et l'ambition s'emparent souvent trop de ces domaines très féconds. Mais les résultats sont nuls. Dans la nature, de pareilles tentatives se paieraient chèrement, car elles feraient mourir de faim les défricheurs.